présente l'émission de sport, l'avant-match. Entrevue, analyse, prévision, 100% sportive. Les coulisses des grandes équipes, les derniers développements, les événements sportifs déterminants. Le sport, scruté à la loupe.
Après une défaite contre les Sabres de Buffalo, le Canadien se prépare à recevoir son ancien capitaine et ce sera sans Thomas Plekanec qui est poussé à la retraite.
La mise en jeu, le tir est court! De la mise en jeu! Et c'est 5 à 5! On est collé, le lancer par-dessus la tête du gardien! Et le long rebond appartient à Ristolainen. Il attaque, Pekka donne tout, tente de le rattraper, le lancer est court!
Rasmus Ristolainen.
Le but de la victoire! Il a déjoué Price entre les jambières d'un tir bas.
La marque finale ce soir au Centre Bell, ça se termine en prolongation 6 à 5 en faveur des Sabres de Buffalo.
We had a chat, we had a good discussion about it, and as I said, it's you know, I've been around for long enough to know that, you know, these guys need to get the chance, and I always wanted to retire as a Montreal Canadian. It's something that I'm really proud of, and I would never expect that. So.
Olivier Pécanet, ils avancent au cercle, tire et bien, et Thomas Pécanet à son millième match.
OFM 93, vous écoutez l'avant-match avec le Vez.
Eh oui, la carrière de Thomas Plekanec a pris fin aujourd'hui. Le Canadien va le placer au balotage dans le but de racheter son contrat. Il n'a pas joué beaucoup cette saison, blessé, comme dirait Jean Perron, blessé à un dos. Et il avait repris l'entraînement, mais on s'est rendu compte que finalement, la présence de Plekanec était pas mal moins essentielle que ce qu'on avait prévu ou anticipé chez le Canadien. Donc, il y a eu une conférence de presse en fin de matinée aujourd'hui. Plekanec a été un petit peu quand même ému d'annoncer sa retraite. Il disait qu'il voulait, il a toujours souhaité prendre sa retraite en tant que membre du Canadien, qui aurait aimé évidemment gagner la Coupe Stanley à Montréal, mais il est quand même fier de ce qu'il a accompli. Il comprend la décision, il dit comprendre la décision. Il s'agit de la meilleure décision pour l'équipe. Décision que Marc Bergevin a trouvée difficile à prendre. Il la justifie par l'émergence des jeunes joueurs avec le Canadien. Oui, c'est vrai, il y avait beaucoup de points d'interrogation, particulièrement au poste de centre au camp d'entraînement. Mais finalement, ce que Max Domi fait depuis le début de la saison, je pense que ça répond à beaucoup de ces interrogations-là. Et ça a un peu poussé Thomas Plekanec vers la sortie. Plekanec n'a pas écarté, d'après ce qu'on lit, la possibilité de jouer ailleurs que dans la Ligue nationale, peut-être en République tchèque, où il a toujours été très impliqué avec l'équipe nationale dans des compétitions internationales avec l'équipe de la République tchèque. Donc, il a joué 1001 rencontres, voilà, dans la Ligue nationale. Et on avait souligné l'exploit il y a quelques temps avec lors d'un match du Canadien. Il avait d'ailleurs récolté un but dans ce millième match-là dans la Ligue nationale. Il aura joué 15 saisons dans la Grande Ligue. Mentionnons que, il faut le rappeler, le Canadien qui a perdu hier 6 à 5 en prolongation contre les Sabres de Buffalo. Drouin et Pekka ont eu but une passe chacun. Chat, Tatar et Delorier. Delorier, c'est en désavantage numérique, ont marqué pour le Canadien. Max Domi a quand même 3 passes, quand on parlait de lui tantôt. Price a donné 6 buts sur 31 lancés. Encore une performance douteuse de Carey Price, qui a admis après le match qu'il n'avait pas bien joué. On a même entendu hier au Centre Bell des applaudissements de dérision à l'endroit de Carey Price en deuxième période. Après un arrêt relativement facile. Et ce matin, après l'entraînement, il a mentionné qu'il doit régler des choses mentalement. Et d'ailleurs, le Canadien va lui donner un peu de temps pour régler des choses mentalement parce que c'est Antti Niemi qui va affronter Max Pacioretty et les Golden Knights de Las Vegas demain au Centre Bell. On a appris hier également, lors du match contre les Sabres, que Yoel Armia sera absent de 6 à 8 semaines, blessé au genou dans le match contre les Rangers à New York. Et après le match de demain, ben le Canadien va aller passer la semaine prochaine dans l'Ouest canadien, mardi à Edmonton, jeudi à Calgary et samedi dans 8 jours à Vancouver. À part de ça, peut-être vous mentionner, c'était sur le site du Journal de Québec ce matin, même hier en fin de journée, en fin de soirée, mais c'était pas dans le journal, me semble. En tout cas, je l'ai pas vu. Un petit texte qui parle de Bill Daly, qui s'est entretenu avec la radio de TSN à Toronto. Bill Daly, le numéro 2 de la Ligue nationale, derrière, évidemment, Gary Bettman. Et il a mentionné, parce qu'on faisait allusion aux matchs de la Ligue nationale, des matchs réguliers qui ont été présentés du côté de la Finlande il y a pas si longtemps, c'est la semaine dernière, si ma mémoire est bonne. Donc, M. Daly a mentionné qu'il était inévitable qu'il y ait un jour une équipe en Europe, même si c'est pas actuellement dans les plans à court terme. Je ne sais pas ce que ça veut dire pour Québec, hein? Mais honnêtement, personnellement, je trouve que ce serait tellement trop compliqué d'avoir une ou deux ou trois équipes en Europe à cause des équipes nord-américaines qui devraient aller jouer là-bas, décalage horaire, le temps qu'on devra leur donner avant, ben, surtout au retour, pour se remettre du décalage horaire avant de rejouer un match suivant. Bref, tant mieux si ça marche. Est-ce que les revenus seront aussi importants pour des équipes basées en Europe qu'ils le sont pour des équipes basées en Amérique du Nord? En tout cas, il y a tellement de questions. Moi, je suis un peu sceptique par rapport à ce projet-là, mais de toute façon, on n'est pas rendu là non plus. On va attendre. Dans les matchs présentés hier, Ligue nationale, mentionnons rapidement la défaite d'Ottawa, justement, contre Las Vegas, les prochains adversaires du Canadien. Septième but de Jonathan Marchessault, 5-3, si je ne l'ai pas mentionné, pour Las Vegas hier. Thomas Chabot a marqué son cinquième de la saison. Défaite pour le premier match du nouveau coach des Blackhawks de Chicago, Jeremy Colleton, 4-3 contre la Caroline. C'est une sixième défaite de suite pour les Hawks. Quatrième victoire de suite pour Tampa Bay, 4-2 contre les Islanders. Il y a Dallas qui a battu San Jose, 4-3. Joe Thornton disputait le 1500e match de sa carrière dans la Ligue nationale. Il vient au 19e rang de l'histoire pour le plus grand nombre de matchs disputés. Il a récolté une passe dans la défaite de son équipe. Et mentionnons que les Flyers ont gagné 5-4 contre les Coyotes de l'Arizona, malgré le fait que les Flyers ont accordé deux buts en 24 secondes sur le même désavantage numérique des Coyotes. Les Flyers jouaient en avantage numérique. Et donc, les Coyotes, avec un homme en moins, ont marqué deux buts durant la même punition à leur équipe en 24 secondes. Ce soir, il y a six matchs au programme. On surveille entre autres le New Jersey à Toronto. C'est présenté à TVA Sports. Les Rangers à Détroit. Les Rangers ont gagné leurs quatre derniers matchs, dont leur dernier contre le Canadien. Et le Colorado à Winnipeg. Ça va être un bon match. Les deux équipes qui se ressemblent beaucoup sont d'ailleurs 7e et 8e. Colorado 8e, Winnipeg 7e dans la conférence de l'Ouest. Et les Remparts complètent leur voyage de 5 matchs. En fait, 4 matchs et demi, parce qu'il y en a un qui n'a pas été complété dimanche dernier à Gatineau en raison d'une panne électrique. Donc ce soir, les Remparts sont à Shawinigan. Ils ont subi la défaite à leurs quatre derniers matchs. Et bonne chance aux Chevaliers de Lévis au Hockey Midget 3A qui vont tenter d'aligner une 21e victoire en autant de matchs ce soir à Lévis contre Trois-Rivières.
Jeu renversé, Breton-Robert, la passe complétée pour le toucher. Quel jeu à Hugo Richard pour le toucher. On sort notre jeu truqué avec 21 secondes à faire. Le Rouge et Or prend les devants.
Si vous ne le saviez pas encore, il y a un gros match de football le demain après-midi, 14h au Stade TELUS, Université Laval, la Coupe Dunsmore pour une sixième année de suite. Le Rouge et Or va affronter les Carabins de l'Université de Montréal. On en parle avec l'analyste au match de football universitaire à TVA Sports, Charles-Antoine Sinotte. Salut Charles-Antoine.
Salut Pierre, je suis en route vers Québec. Pierre, est-ce que j'ai compris qu'on annonçait 15 cm de neige cette nuit?
C'est pas impossible, mais jusqu'à quel point ça peut être un facteur?
Ben, ça fait juste mettre une toile de fond de Coupe Dunsmore.
Ouais.
Une sixième de suite entre ces deux équipes-là. À chaque fois, il arrive des rebondissements incroyables. Donc, avec une petite neige, là, ça va juste ajouter un petit peu de piquant.
Qu'est-ce que tu choisis si toi, tu es un joueur? T'es receveur de passe avec McGill dans le temps, joueur étoile, on va le mentionner. qu'est-ce que tu préfères, jouer dans la pluie ou dans la neige?
Aucun doute dans la neige. La pire combinaison, c'est de la pluie et du vent. Le ballon glisse, le ballon bouge, c'est imprévisible. La neige, honnêtement, ça ralentit pas tant le jeu que ça. Ça change la dynamique, mais pour le ballon, il y a quand même une bonne préhension. Les changements de direction sont un petit peu moins vifs, là, parce qu'il faut quand même que tu gardes tes pieds sous ton corps, littéralement. Mais jour et la nuit, quand il y a de la pluie ou quand il y a de la neige.
J'ai l'impression que ça va être un match serré demain. Est-ce que les unités spéciales pourraient faire la différence? Et est-ce que les conditions météo affectent plus les unités spéciales? Parce que là, il y a des échanges de ballons tout le temps dans les unités spéciales.
Les unités spéciales vont faire la différence d'une manière ou d'une autre. C'est officiel. On a, et de loin, les deux meilleurs batteurs. Je te dis les deux meilleurs batteurs. En fait, je devrais te dire les quatre meilleurs batteurs parce que les Carabins et le Rougeard se sont spécialisés sur les placements, sur les dégagements. Le positionnement du terrain, c'est un match à l'intérieur d'un match. C'est ce match-là que tant les Carabins et le Rougeard, le reste de la saison, ne perdent pratiquement jamais. Donc, c'est clair que on a tellement une belle rivalité, on est égal. Faut le dire, là. À quelques détails près, les deux groupes d'unités spéciales, les deux équipes sont aussi bons. Donc, c'est clair que ça va faire partie du match. Puis, non, la météo est un petit peu moins importante sur les unités spéciales qu'en attaque parce que, oui, il y a beaucoup de remises de ballons, mais les remises sont moins, je veux dire, délicates, pointues. Une remise de dégagement, là, ça franchit 14 verges dans les airs. Le batteur a un petit peu plus le temps de placer son ballon, tandis que le corps arrière, ça se passe en une fraction de seconde. Donc, à ce moment-là, quand ça glisse, c'est plus difficile.
OK. Le Rougeard a gagné les deux matchs contre les Carabins en saison régulière. Il y en a eu un même en prolongation ici à Québec. Est-ce que c'est un gros avantage d'avoir gagné ces matchs-là? Évidemment, tu veux toujours les gagner, là, mais jusqu'à quel point c'est un gros avantage pour amorcer le match de la Coupe Dunsmore?
Bien, moi, je vais faire un parallèle qui est assez précis entre cette saison-ci pour le Rougeard et la saison 2013, la dernière fois où on avait été invaincu du côté de l'équipe de Glenn Constantin. Saison invaincue, donc la dernière fois que les Carabins avaient perdu deux fois contre le Rougeard, une Coupe Dunsmore à Québec, une Coupe Vanier à Québec. Le Rougeard avait fini la saison invaincu. Il y a tellement de liens à faire avec la saison 2018. À l'époque aussi, on était à la fin d'un cycle. Maintenant, les Carabins ont aucun complexe d'infériorité avec le Rougeard. Les Carabins prennent plaisir à jouer au PEPS de l'Université Laval. Je dis pas ça pour diminuer la performance du Rougeard ou l'avantage du terrain. C'est juste que s'il y a une chose que Danny Machocha a vraiment bien réussi, c'est de bâtir une confiance incroyable. Je regardais à ses médias sociaux, les Carabins dansaient dans le vestiaire hier avec des lumières et des costumes. Les gars sont différents. Ils ont leur petite vibe qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Danny Machocha leur donne du lousse, leur donne la laisse là-dessus. Ça fait en sorte qu'ils ont tellement un ego que lorsqu'ils arrivent à Québec, ils se font extrêmement confiance. Je te fais une longue réponse pour te dire que pour moi, il n'y a rien en saison, même si le parcours est beau, qui va altérer le match de demain parce qu'on l'a tellement vu dans les autres années. Il se passe n'importe quoi, à n'importe quand. Des scénarios hollywoodiens, des jeux qu'on n'a jamais vu. L'année passée, souvenez-vous, là, les trois bottés courts pour les Carabins consécutivement en fin de match. Le botté bloqué à l'époque, le jeu truqué d'Hugo Richard au septum, ça s'invente pas, puis ça se développe devant nos yeux. Fait que dans le fond, là, je contourne ta question pour te dire que je ne le sais pas, puis personne ne le sait.
Bon, pourquoi le match, outre le fait que ce sont les deux meilleures équipes au Québec depuis longtemps, pourquoi le match de demain va être bon? Est-ce que d'abord, ça va être à cause de la défense des deux équipes?
Ben, j'adore quand les forces s'affrontent, mais là, ce sera l'inverse, parce que les deux forces des équipes respectives, les deux défenses. On parle beaucoup de celle des Carabins parce qu'elle a battu le record du plus bas nombre de points alloués en une saison, là, 5,8 en moyenne par match. C'est incroyable, mais tu sais, les Rougeards, je pense qu'ils ont alloué 8 de plus, fait que c'est un point en moyenne de plus par match. C'est pareil au même. Où est-ce que c'est spécial, c'est que la défense des Carabins marque des touchés. La défense des Carabins, là, incluant le match de la semaine passée, a marqué 7 touchés défensifs. C'est du jamais vu. Ils n'auront pas le choix, tu vas me dire, parce que l'attaque des Carabins, elle a des hauts et des bas. L'attaque des Carabins est un peu cardiaque. Elle est basée sur un corps arrière qui est à sa première Coupe du monde comme partant. C'est plus inattendu. À l'inverse, le Rougeard est parfait, est méticuleux, n'a pas de faiblesse, est égal, est équilibré, balancé. C'est le genre de recette que tu vas avoir. Mais les émotions, la ration, la raison, écoute, tu comprends ce que je veux dire? C'est on peut aller au plus petit détail, ça s'analyse, mais en même temps, l'équipe qui va se présenter le plus affamée demain va l'emporter, et le plus affamée en deuxième demi, parce que je faisais un peu ma préparation de match, là, dans les cinq derniers matchs. la coupe de dans les cinq derniers matchs entre les deux équipes, donc remontant l'année passée, à chaque fois le Rougeard menait à la mi-temps. À chaque fois le Rougeard dominait la première mi-temps, et à chaque fois les Carabins trouvaient une façon de rebondir au troisième quart. Donc j'ai hâte de voir à quel point ça va jouer dans les dernières minutes de la première mi-temps et dans les premières minutes de la seconde.
Il y a une confrontation que j'ai bien hâte de voir, puis ça touche un joueur contre un côté de ligne offensive, c'est Mathieu Betts contre son côté de la ligne offensive des Carabins, qui devront bien protéger leur corps arrière. Tu l'as mentionné, c'est sa première année comme partant, Dimitri Morin, qui a pris le rôle de partant justement dans le match contre le Rouge et Or à Montréal. Donc, il y a un peu moins d'expérience de son côté. L'importance du travail de la ligne offensive des Carabins, c'est quoi?
Ça, ça en est un autre match au sein même du match. J'ai l'impression que l'équipe qui va remporter la bataille Betts va gagner le match. Mm-hmm. La bataille Betts, c'est pas juste un joueur. C'est comment ce joueur transforme le plan de match offensif et par le fait même, le plan de match de Marc Fortier, parce que c'est juste un jeu d'échecs incroyable. La dernière fois que les deux équipes se sont affrontées, tu l'as dit, on s'est rendu en prolongation. Mathieu Betts a battu le record de tous les temps, a réussi 4 sacs. Et tout le plan de match des Carabins avait été articulé autour du numéro 9. Mm-hmm. Je te le dis, là, tout ce qu'on faisait, puis je regardais les bandes vidéo cette semaine, tout ce qu'on faisait, c'était en fonction du numéro 9, et il a réussi 4 sacs du corps. Mm-hmm. On le met, vous regarderez demain. Là. Parfois, là, on le regroupe en deux groupes placards défensifs. Maranda, Bizot et Desjardins, on le cachait entre les deux à l'extérieur de la ligne. Alors qu'habituellement, les deux gros sont au centre, on s'entend.
Ouais.
Donc là, on avait décidé là, de cacher Betts à un côté, puis d'avoir un mur de gros 600 livres devant lui pour lui permettre de trouver des ouvertures. Mm-hmm. Parfois, il joue secondaire. Ça n'arrêtera jamais la créativité de Marc Fortier. Et ainsi, donc, comment on va utiliser les joueurs de ligne? La dernière fois, les Carabins, là, je te dirais que 40% des jeux avaient 6 joueurs de ligne à l'attaque sur le terrain. Puis de l'autre côté, c'est un centre arrière comme elle est rapprochée. Fait que tu compromets 2 receveurs pour avoir une plus grande protection et ça n'a même pas marché. Mm-hmm. Fait que j'ai hâte de voir demain de quelle façon ça va avoir évolué ce dossier-là.
Tu étais receveur de passe, donc tu jouais en attaque. Et il y a un dicton qui dit que c'est la défense qui gagne des championnats. Mais est-ce que l'attaque du Rouge et Or, qui est nettement plus expérimentée que celle des Carabins, peut faire en sorte que ce match-là va pencher du côté de Laval?
Oui, et puis pas nécessairement uniquement au pointage. C'est la durée des séries offensives qui va prévaloir.
Le contrôle d'horloge.
Demain, là, c'est exactement ça. Mais demain, il ne faut pas voir un dégagement comme un échec. Mm-hmm. Un dégagement doit venir, par contre, après 2, 3, idéalement 4 premiers essais. Parce que la défense des Carabins est tellement active, elle est petite, je veux dire linéaire. Là, c'est des grands gars, des gars qui bougent bien. Mais ces gars-là qui misent tout sur leur vitesse passent 65% du match sur le terrain. Ils vont perdre de leur mordant. Puis là, la grosse ligne à l'attaque du Rouge et Or va contrôler le match, va contrôler le temps. Fait que c'est la poule ou l'œuf. Tu contrôles le temps, tu ralentis la défense des Carabins et tu, le plus facilement, peux implanter ton jeu au sol parce que tu peux commencer à être physique avec ces gars qui sont un petit peu plus longilignes. Mm-hmm. Donc, c'est clair que c'est une façon de gérer le match qui va être décisive demain pour l'attaque du Rougeard. Et Hugo Richard, dernière Coupe Dunsmore pour celui qui aujourd'hui est devenu pour une troisième fois en 5 ans. C'est énorme, le joueur le plus utile à son équipe. C'est gros, là.
Oui.
La seule chose pour Hugo, quand il joue au football, il est le meilleur. Quand il réfléchit à comment jouer au football, ça entre dans sa tête rapidement et il veut trop bien faire les choses. C'est sa dernière Coupe Dunsmore. Est-ce qu'il va en profiter comme joueur de foot ou il va penser absolument à jouer un match parfait parce qu'il n'a pas le choix de gagner, parce que c'est son équipe? Si c'est le deuxième scénario, ça va être plus problématique. Si c'est le premier qui a un sourire dans la face qui est, prête-moi l'expression, lousse, là, le Rouge et Or va gagner.
Ça va être assurément un match serré. Les 5 dernières Coupes Dunsmore entre les deux équipes, il n'y a jamais eu d'écart de plus de 3 points. Donc, ça veut dire que n'importe quel des 130 ou 135 jeux demain peut être très important. Ça va être, on va être au bout de notre siège du début à la fin. Hein?
Ben, les revirements, la protection du ballon. J'ai hâte de voir l'indiscipline. Parce que cette année, là, c'est exceptionnel du mauvais côté de la réponse. Le nombre de mouchoirs sur le terrain. On a eu des matchs là, avec 45, 47 couleur, mouchoir sur le terrain. Les Carabins, dans le passé, ont gagné des Coupes d'Andemore avec plus de 150 verges de pénalité, ce qui est actuellement impossible. C'est pas supposé de se passer comme ça. Eux, ça fait partie de leur recette. Mais la réalité, tu veux pas t'amener dans un coin parce que t'es indiscipliné puis tu donnes des premiers essais gratuits. Mm-hmm. Donc, ce volet-là va être important. Le fait de sortir du territoire adverse avec des points, un 3, un 7, mais au moins des points, aussi va être crucial parce que tu l'as dit, c'est toujours par une possession. Fait que si tu concèdes une possession à l'autre équipe, ça se peut fort bien que ce soit celle-là qui a été décisive.
OK, Charles-Antoine, je peux pas te laisser sans te parler un petit mini peu d'hockey. T'animes les partants à TVA Sport, une émission consacrée au sport, évidemment. Hier, Carey Price s'est fait applaudir de façon dérisoire par les spectateurs en deuxième période. C'est quoi la c'est quoi le buzz à Montréal à ce sujet-là présentement?
Les gens seront jamais capables de regarder plus loin les gens. Certaines personnes.
Ouais.
Plus loin que le 10,5 millions qui est consenti à Carey Price. Donc, on est un petit peu primé. Les gens, là, cherchent une façon de dire que c'est un mauvais contrat. La réalité, c'est que le contrat, il est donné. Mm-hmm. Le contrat, il est là. On faut vivre avec. Donc, ce qui me déçoit un peu, c'est que, bon, on a payé le joueur qui, selon plusieurs joueurs de la LNH, est le meilleur gardien de la Ligue, comme le meilleur gardien le mieux rémunéré, en fait. Et là, depuis, on cherche des problèmes. Carey Price n'a pas été exceptionnel depuis le début de la saison.
Non.
Mais mis à part le match hier, il n'a pas été mauvais non plus. Puis même à ça, hier, regardez, 5 des 6 buts, là, puis il y a des erreurs flagrantes de la brigade défensive du Canadien, des revirements épouvantables de Domi. Xavier, puis Domi a été très bon, c'est pas ça que je veux dire, là, mais tu sais, il y a des jeux qui mènent à des buts plats. Carey Price fait partie d'une brigade défensive qui est encore une fois la pire de la LNH là, pour l'instant jusqu'à ce que Weber revienne. C'était le cas l'année passée, on a fait un seul changement avec Xavier Ouellet, fait que ça allait pas s'attendre à quelque chose d'exceptionnel. Mais les gens sont très, très agressifs au lieu d'être un petit peu plus patients. Carey Price joue pas bien, Carey Price doit faire une introspection, probablement une intervention avec le responsable de la psychologie sportive de l'équipe. Carey Price a pas perdu son talent, son gabarit, sa souplesse, ses qualités athlétiques. Tu m'as reparti. Je t'ai calme, tu t'en vas
dedans,
là. Tu m'as
pesé, on va arrêter là avant que tu fasses un accident. On va juste te souhaiter un sacré bon match de football demain. Je pense que de toute façon, on ne se trompera pas. Ça va être un bon match.
Ça va être vraiment le fun. À 1h30, on a un avant-match en plus à TVA Sport pour mettre la table sur ce gros, gros duel de foot.
Excellent, Charles-Antoine. Merci, sois prudent, puis à demain.
Merci à toi, Pierre. Bonne soirée.
Salut, bye. Charles-Antoine Sinotte est analyste au match de football du RSEQ à TVA Sport.
Au FM 93. Ready? L'avant-match avec Levez.
On va rester dans le football, puis on va rester dans le match de la Coupe Dunsmore, parce que ce matin, il y avait la conférence de presse qui mettait la table pour le match comme tel, mais on en profitait également pour faire connaître l'identité des joueurs les plus méritants dans différentes catégories, et notre ami Will est allé faire un tour. Salut Will!
Salut mon Vez!
Hugo Richard, joueur par excellence, pour une troisième fois en 5 ans, c'est pas une grosse surprise, avec compte tenu des résultats du Rouge et Or cette année.
Oui, puis surtout des records qu'il a battus. Mm-hmm. Je pense que même Mathieu Betts, qui a récolté joueur de ligne par excellence cette année, surtout les gars ont fracassé des records qui étaient établis depuis de nombreuses années.
Ouais.
Donc oui, Hugo Richard, ça a été une saison dominante à tous les points, donc c'est pas surprenant de l'avoir gagné le titre de MVP.
OK, donc tu l'as mentionné, Mathieu Betts, joueur de ligne de l'année, ça fait, c'est pas la première fois qu'il
est... Troisième, je pense, en 4 ans.
C'est
quelque
exceptionnel.
Puis 2 au Canada. Il est encore nominé pour le joueur de ligne au Canada cette année.
Oui.
Je pense que ça va être donné la semaine suivant la Coupe Dunsmore.
Ça va être dans la semaine de la Coupe Vanier, le jeudi avant
la Coupe Vanier. C'est ce que je voulais dire. Merci de m'avoir repris, Vez. Mais c'est ça, il est encore en liste pour le joueur de ligne au Canada. Mm-hmm. Ce serait un troisième titre pour lui. C'est déjà un troisième au Québec. Là. Quelle domination!
Oui, puis ça va être, comme on le disait avec Charles-Antoine, un match dans le match. Le match que Mathieu Betts va disputer contre la ligne offensive des Carabins. Recrue de l'année aussi, un joueur du Rouge et Or, Vincent Forbes du Montbleau. C'est un nom qu'on a entendu pas mal souvent cette année.
Oui, et très prometteur pour la suite des choses. Il y a quelques receveurs qui vont quitter cette année.
Ouais.
Entre autres, Étienne Moisan, Alexandre Savard, qui sont sur leur dernier mille avec le Rouge et Or. Donc ça, c'est un gars qui va prendre la relève avec brio dans les prochaines années.
Recrue défensive de l'année, Maxime Lavallée, un demi-défensif qui a réussi 16 plaqués et demi, dont 13 solos cette année.
Ouais, c'est pas rien, ça. C'est pas rien. Et il avait de grosses chaussures à remplacer, celle de Gabriel Ouellet, un des meilleurs demi-défensifs chez le Rougeard, qui s'est blessé en milieu de saison. Lavallée a pris la relève et il l'a fait avec brio. Et vraiment, c'est la force du Rougeard, Vest, depuis de nombreuses années, c'est que on a des très bons joueurs partants, mais les joueurs remplaçants qui arrivent et entrent dans la mêlée sont tout aussi bon et tout aussi dominant. Donc, ça prouve vraiment la profondeur du programme Rougeard.
C'est, en général, ce qui fait la différence entre le Rougeard et les Carabins.
Carrément.
Et les trois autres équipes au Québec.
Carrément.
La qualité du recrutement permet d'avoir ce genre de profondeur-là. Et Glenn Constantin, 8e fois entraîneur de l'année depuis le début de sa carrière.
Surprenant,
avec
ça?
Ben, pas beaucoup.
Hein? Saison parfaite, encore une fois, cette
7e.
Année. Septième. Là, il a, je pense, c'est 174 victoires, saison régulière, série incluse. Depuis le début de sa carrière, c'est quand même pas rien, là.
Il est à 22 du recordman Brian Torres, qui en a 22 de plus, c'est ça. Alors, c'est en 96. Mais mes maths mentales sont quand même encore là.
Intéressant.
Il faut souligner aussi deux joueurs des Carabins qui ont été honorés. Le joueur défensif de l'année, Marc-Antoine Decoy, qui est un spécialiste des interceptions. Il a ramené des interceptions pour des touchés. Ça va être un joueur à surveiller demain.
Quatre interceptions, il a ramené pour des touchés cette année. c'est vraiment impressionnant.
C'est quand même pas rien. Et Louis-Philippe Simoneau, le meilleur joueur des unités spéciales, c'est un des botteurs des Carabins. Et ça pourrait être un joueur clé avec David Côté, les deux botteurs de précision pour le match de demain. Avec les matchs serrés qu'on a connus à la Coupe Dunsmore depuis 5 ans, toujours par moins de 3 points ou moins, ça pourrait se faire, le jeu décisif, ça pourrait être un coup de pied.
Ça pourrait se jouer entre les botteurs. Simoneau, 52 verges, il a réussi un placement la semaine dernière. Il y a des botteurs dans la NFL, verges, qui réussissent pas ça, là.
Exact.
52 verges.
Exact.
Quand même, au circuit universitaire, c'est quelque chose.
Ça, 52 verges, là, ça n'a rien à voir avec la qualité de l'adversaire, là.
Non.
C'est toi contre le poteau des buts à l'autre bout
du
terrain.
Le vent, le poteau, le petit ballon ovale, c'est toi puis ces trois aspects-là.
Exact. Et t'as profité de la conférence de presse pour jaser avec les coachs et avec Hugo Richard aussi, joueur par excellence cette année. Et tu lui as parlé de son dernier match en carrière contre les Carabins.
Ben
c'est sa cinquième année, Hugo.
C'est peut-être pas son dernier match en carrière, mais contre les Carabins, assurément que c'est son dernier match en carrière. Cinquième saison pour le corps du Rougeard. S'il gagne, on va poursuivre en demi-finale canadienne et en Coupe Vanier, mais les Carabins vont être éliminés. Donc, Hugo Richard nous parle vraiment de ces matchs exceptionnels entre les deux équipes rivales, et surtout de l'intensité de ces matchs entre ces deux équipes.
Je passe beaucoup de temps à préparer pour ce match-là. C'est mon dernier contre les Carabins, alors je veux évidemment pas finir sur une mauvaise note. Ça a été une rivalité qui a été très marquante tout au long de ma carrière. Puis si je pourrais finir sur une bonne note, ça serait évidemment très bien. Coach Constantin le dit à chaque année aux recrues qui rentrent, il dit peu importe les idées que tu t'es faites par rapport à ces matchs-là, tu sais pas à quoi t'attendre. Puis je pense que je l'ai vécu mon premier match moi-même. Puis maintenant, évidemment, c'est ma cinquième année, alors je sais un peu plus à quoi m'attendre. Mais c'est sûr que cette rivalité-là était plus intense que j'aurais pu l'espérer. Puis c'est une bonne chose pour le football.
Et depuis 5 ou 6 saisons, dans les 12, 13, 14 derniers matchs entre les deux équipes, Carabins et Rougeard, il y a seulement un match qui n'a pas été serré. Il y a eu une victoire de 22-0 du Rougeard à un moment donné en 2013-14.
Oui, exact.
Mais tout le reste, ça a été des matchs extrêmement serrés. Tu en as parlé avec Glenn Constantin.
Ben absolument. C'est toujours des matchs serrés et à bas pointage. Hein, Vest. C'est pas que c'est des mauvaises offensives du côté des deux équipes, mais les défensives sont tellement bonnes et les équipes qui se connaissent très bien. On écoute Glenn Constantin à ce sujet.
Les deux défensives ne donneront pas beaucoup de verges, ne donneront pas beaucoup de points. Donc, c'est de pouvoir bouger le ballon un petit peu comme on est capable de le faire. Les dégagements vont être importants à la position de terrain. Et quand les batteurs vont avoir l'opportunité de faire des points, il ne faut pas en manquer le coup. Mais ayant dit ça, on a bien bougé le ballon la dernière fois. On espère pouvoir le faire la même chose encore. Et maintenant, de capitaliser sur l'ancien offensive. On n'a aucun complexe défensif vers Montréal. Ils ont fait des très, très belles choses. On est content de ça. Par contre, je pense qu'on n'est pas à négliger. On a quand même bougé le ballon quand même assez bien contre les autres. Les matchs de série sont tout le temps plus serrés, anyways.
Et tu as rencontré également le vis-à-vis de Glenn Constantin, Danny Machocha. Il a parlé, entre autres, d'un gars à surveiller dans la défense du Rougeard, Mathieu Betts.
Ben, qui a été un cancer pour les Carabins lors du dernier duel entre les deux équipes. Il a réalisé 4 sacs du corps. Il avait d'ailleurs battu le record lors de ce dernier match contre les Carabins, Mathieu Betts. On a demandé à Danny Machocha s'il avait une stratégie en place pour tenter de contrer Mathieu Betts. On l'écoute.
Ouais, on va essayer de le bloquer.
Mais c'est...
faut le bloquer.
La clé, c'est de doubler.
Doubler, tripler. Il faut mettre une 13e joueur sur le terrain. On va essayer de le faire sans coffre de punition, mais il faut le bloquer. C'est pas compliqué.
Ça, c'est simple, hein?
Ben oui.
Le problème, si tu le doubles, ben, t'as Desjardins à côté qui pourrait faire le même travail que Betts fait, parce que Desjardins n'est pas mauvais non plus.
Mais ben, des fois, c'est peut-être plus facile à dire qu'à faire. Hein?
Oui, c'est sûr.
On va essayer de le bloquer, mais c'est j'ai trouvé drôle la réponse de Danny Machocha. Et dernier extrait que je veux vous présenter, c'est justement Danny Machocha qui nous parle de la formule des séries éliminatoires dans le football universitaire canadien. Est-ce que c'est la bonne formule qui est en place? Est-ce qu'on devrait penser à changer quelque chose? Réponse très intéressante de Machocha, on l'écoute.
Sans manquer du respect envers les autres équipes à travers du pays, je souhaite un jour que ça ne sera pas la Coupe Dunsmore, mais ça sera la Coupe Vanier, qui ces deux grandes organisations vont s'affronter puis ils vont vivre. Puis j'espère qu'on s'en va vers ça, parce que c'est tout un showcase quand tu regardes les cinq dernières années. Partisans de football, pas seulement universitaire, mais en général, aimerait voir ça un jour. Les deux meilleurs devraient s'affronter chaque année pour la Coupe Vanier. Moi, je suis ouvert à toutes sortes de modèles, de discussions, de s'asseoir puis d'en parler, mais je pense pas qu'on peut se permettre de penser qu'on va garder le statu quo puis les choses vont changer. Alors, je le souhaite. C'est sûr, il y a beaucoup de réflexions. Ça appartient au leadership, là. Ça appartient aux dirigeants de s'asseoir puis de regarder comment on peut améliorer ce produit-là.
Intéressant, parce que je pense que le sujet est de plus en plus sur la table. Il va falloir que les autorités commencent à songer à changer des choses pour que on ait des matchs intéressants dès le début des séries et à chaque semaine pour tous les matchs jusqu'à la fin. On s'entend que le gagnant du match de demain, là, il y a comme...
S'en va Coupe Vanier,
pour reprendre l'expression de Danny Machocha, je ne veux pas manquer de respect aux équipes des Maritimes, mais le gagnant du match de demain, il joue contre le gagnant des Maritimes.
On se parle franchement, là.
Et l'équipe des Maritimes a à peu près une chance sur 100 de gagner le match de la finale, de la demi-finale canadienne la semaine prochaine.
Puis des demi-finales qui se terminent 50-0 comme la semaine dernière, c'est pas logique, c'est pas normal. Et je pense que c'est les deux meilleures formations au Canada qui vont s'affronter demain au Stade TELUS. Alors, est-ce qu'on aurait aimé voir ces équipes-là dans deux semaines pour la Coupe Vanier?
Ben oui,
je pense que oui. Hein?
C'est sûr. Peut-être qu'à partir de la deuxième ronde des séries, on pourrait voir des croisements entre les conférences. En tout cas,
serait intéressant pour les prochaines années.
Ils m'appelleront s'ils veulent mes idées. J'en ai quelques-uns. Will, merci beaucoup.
Merci, Vez.
On va faire une courte pause à l'avant-match et tout de suite après, on continue à parler de football, mais de la NFL avec Stéphane Cadorette.
À Québec, les tripeux de sport ont le bon réflexe. Jusqu'à 19h, au FM 93, vous écoutez l'avant-match.
Chez Volvo, nous n'avons qu'une chose en tête, le bien-être de votre famille. Voilà pourquoi nos voitures sont toutes équipées des systèmes de sécurité les plus évolués sur la planète. Lors de l'événement Un cadeau signé Volvo, louez ou achetez un Volvo XC90 et profitez d'un taux de 2,9% seulement et d'une remise exclusive de 2 000 $ pour le temps des fêtes. Votre famille mérite confort et luxe incomparable.
Pour les détails, passez chez Volvo de Québec ou visitez volvodequebec.com.
Pour une 6e année de suite, le Rouge et Or affronte Montréal pour la finale de la Coupe Dunsmore ce samedi 14h au stade TELUS de l'Université Laval. Meilleur tailgate au pays, admission gratuite pour les 12 ans et moins. Informations et réservations, 88-656-FOOT ou sur réservatech.net.
Depuis 1983, L'Aube-Rivière a aidé plus de 120 000 personnes en apportant soutien et réconfort à ceux qui en ont besoin. Des services de base au programme de formation jusqu'à la réinsertion sociale. Aujourd'hui, L'Aube-Rivière a besoin de vous. Rallumez des vies en répondant généreusement à leurs sollicitations postales ou faites votre don à l'aube-rivière.org. Pour rallumer des vies, donnons. L'Aube-Rivière remercie ses partenaires sous la présidence d'honneur de la Caisse des Jardins du Québec. Collaboration FM 93.
NC.
Quoi?
Écoute ça. Gémeaux. Vous entamez de nouveaux projets.
OK.
Ben là, pas le choix. On va refaire le plancher du salon. Puis tant qu'à faire, aussi bien changer les moulures puis rafraîchir la peinture.
Mais Dave, t'es même pas Gémeaux.
Ben presque, là. Ce mois près. Jusqu'à mercredi, chez Renault Dépôt, on paie les taxes pour vous à l'achat de 2 électros de cuisine. Et de vendredi à dimanche, obtenez jusqu'à 20 % de rabais à l'achat de 150 $ et plus. En magasin et en ligne, des conditions s'appliquent. Renault Dépôt, le choix des rénovateurs depuis 25 ans.
La route des plaisirs hivernaux commence ici. Passez-nous voir chez votre concessionnaire Toyota du Québec. Les techniciens Toyota certifiés connaissent bien les 15 marques de pneus d'hiver autorisées par Toyota. Procurez-vous-les à prix imbattable grâce à notre promesse du meilleur prix.
Envie d'un emploi cet hiver? La journée d'embauche du Village Vacances Valcartier aura lieu le 18 novembre. Des emplois sont offerts pour tous les âges et pour tous les goûts. Présentez-vous sur place de 9h à midi pour passer une entrevue. Une navette gratuite est offerte pour vous y rendre. Tous les détails dans la section emploi au valcartier.com.
C'est un fait, les amoureux de pasta se donnent rendez-vous au Portofino. Des pâtes fraîches faites selon la tradition italienne. Vous vous sentirez comme à Rome, Venise ou Milan dès la première bouchée, c'est assuré. Deux restaurants pour vous régaler, Portofino Vieux-Québec et Sainte-Foy.
Les stations Cogeco présentent le succès économique du jour.
Avec l'agrandissement de son usine de Chicoutimi, Industrie Dodec ajoutera 10 employés à son personnel actuel de 90 personnes. Cette entreprise familiale se spécialise dans la soudure et l'usinage et dessert les industries de l'hydroélectricité, de l'aluminium, des forêts et des mines pour lesquelles elle peut maintenant fabriquer des pièces plus grosses.
Le succès économique du jour, une initiative de la Fédération des chambres de commerce du Québec et Cogeco Média.
À tous les jours, j'ai mal aux genoux.
Mes douleurs articulaires nuisent à mon travail. Quand ça fait mal, ça fait mal.
Heureusement, il y a une solution naturelle et efficace. Génacol anti-douleur. Grâce à la combinaison du collagène aminoloc qui soulage les douleurs articulaires et de la membrane de coquille d'œuf qui réduit l'inflammation, vous obtiendrez des résultats en moins de 5 jours. Oui, 5 jours. Avec Génacol anti-douleur, vous oublierez vos articulations.
Génacol, tu me fais du bien.
Chez Honda de Giro, avant, ils étaient fins. Maintenant, ils sont beaux et fins. C'est normal, ils ont tout rénové. Honda de Giro, toujours ouvert le samedi, avenue Saint-David, Montmagny.
Spectacle, festival, événement. Quand ça bouge à Québec, le FM 93 est de la partie.
À la demande générale, ils sont de retour. Venez revivre le meilleur du rock progressif avec Prog Story. King Crimson, Pink Floyd, Yes, Genesis. Prog Story, le 17 novembre à la salle Jean-Paul Tardy. Billets, lepointdevente.com.
Les événements de Québec, propulsés par le FM 93. FM 93, ça me parle. Au FM 93, vous écoutez l'avant-match avec le Vez.
5, Roethlisberger pulls it back, throws, has Juju Smith-Schuster. What a start to the night! One play, bang, touchdown Steelers!
C'était le premier de 5 passes de toucher de Ben Roethlisberger dans la victoire des Steelers, 52-21 sur les Panthers de Caroline. On parle de la NFL avec notre collaborateur habituel du vendredi, Stéphane Cadoret du Journal de Québec. Salut Stéphane!
Salut M. Vez!
Ça va bien?
Ben oui, toi?
Ben oui, puis t'as pas une grosse fin de semaine en fin de semaine. Il me semble qu'il y a juste 2-3 bons matchs, me semble. Pas plus.
Ouais, tu sais, je suis obligé de t'avouer que c'est tranquille. Là. J'aime pas dire ça parce que j'adore quand on a un bon show.
Ouais.
Mais on a été tellement gâtés dans les dernières semaines. On a eu des gros, gros matchs, notamment ceux de 16h et celui de 20h. Donc, il y a quelques rendez-vous corrects, là, mais tu sais, on se fera pas d'accroire. Là, c'est pas le gros week-end de l'année.
Celui d'hier en était un des quelques bons matchs entre les Panthers et les Steelers. Les Panthers ont raté une belle occasion de se rapprocher des Saints de Nouvelle-Orléans dans leur division. Ils se font planter 52-21. C'était-tu prévisible, ce genre de résultat-là?
Ah non, pas du tout. Tu sais, résultat favorable en faveur pour les Steelers, oui. Ça, c'était prévisible dans une certaine façon. Ah non, jamais. Écoute, les Panthers jouaient du très bon football dernièrement. C'est une équipe qui semblait en ascension. Puis là, je dis pas que tout est fini. Il y en avait peut-être juste une mauvaise dans le corps. Mais à part du porteur de ballon Christian McCaffrey hier, ça faisait vraiment dur. J'ai pas aimé du tout le jeu de Cam Newton. Écoute, t'sais, ils prennent les devants 7-0. Deux jeux plus tard, c'est 14-7 pour les Steelers parce qu'ils se font surprendre par une bombe à Juju Smith-Schuster. Mais surtout parce que Newton a lancé une passe à l'aveuglette aussitôt qu'il a eu sa chance par après. Oui, il était sous pression. Là, TJ Watt était pas mal rendu dans ses culottes. Mais honnêtement, tu peux pas lancer une passe comme ça. Ça ressemblait plus à une prière qu'à une passe. Mm-hmm. Ça a été bien décevant de le voir aller tout au long du match. Quand les Panthers perdent de cette façon-là, Cam Newton devient souvent un mauvais leader. Écoute, c'est facile d'être un bon leader, d'être apprécié de tes coéquipiers quand tu mènes 38-10 et que tu as une fiche de 12-1. Mais il faut le faire dans d'autres circonstances aussi. Mm-hmm. Ça n'a pas été un match facile de ce côté-là.
Il y a un des points d'actualité qui traîne depuis le début de la saison, c'est le fait que les Steelers n'ont pas réussi encore à s'entendre avec le porteur de ballon, Le'Veon Bell. Mais là, James Conner, qui était leur porteur numéro un depuis le début de la saison, s'est blessé. On parle d'une commotion cérébrale hier. Est-ce que ça va forcer les Steelers à assouplir leur position puis à s'entendre finalement avec Le'Veon Bell? Parce qu'il y a comme une date limite là, avec, à laquelle ils doivent s'entendre avec lui si on veut l'utiliser cette année.
En fait, c'est assez complexe là, l'histoire du fameuse étiquette de joueur de franchise. Puis les Steelers peuvent pas vraiment assouplir leur position parce que l'offre a été soumise. Le'Veon Bell, tout ce qu'il y a à faire, c'est la signer, se rapporter, et puis il fait partie des plans jusqu'à la fin de la saison. Après, c'est merci, bonsoir.
Ils peuvent pas changer l'offre?
Il aurait fallu négocier une offre à long terme, mais ça, fallait le faire avant une date X. Je me rappelle plus de la date exacte, mais en ce moment, là, tu sais, ça peut plus se faire là, comme tel.
La seule offre qui peut tenir encore jusqu'à mardi, je pense, c'est comme joueur de concession. Donc un contrat d'un an.
Un contrat d'un an qui est à la hauteur, là, je pense, du top 5 à sa position.
Okay.
Et puis, Bell, dans le fond, aurait fait une somme assez importante là, cette année s'il s'était rapporté au début de l'année. Il n'était pas en peine, mais lui, il voulait de la sécurité à long terme. Sauf que les Steelers étaient probablement pas prêts à s'engager. Ouais. Compte tenu de son historique de suspension, compte tenu de son historique de blessure, cela dit, ils lui en ont fait une offre à long terme. C'est lui qui a refusé. Moi, je trouve que dans tout ça, Bell a été probablement très mal conseillé. Je suis tout à fait d'accord avec le fait que les joueurs essaient de soutirer le plus possible au niveau financier, parce que dans la NFL, les propriétaires ont trop souvent le gros bout du bâton par rapport au fait qu'ils peuvent déchirer un contrat quand ils le veulent, contrairement à d'autres sports comme au hockey, au baseball, par exemple. Cela étant dit, il y avait une offre sur la table, une très bonne offre des Steelers. Il a dit à ses coéquipiers qu'il allait se rapporter pour le premier match de la saison. Donc, je pense qu'il a laissé tomber beaucoup de monde dans cette organisation-là. Mm-hmm. C'est la partie que j'aime le moins là, dans cette démarche.
OK. Cette semaine, il y a les Saints-Élevé-Lorléans qui ont fait subir aux Rams de Los Angeles leur première défaite cette saison. Les Saints ont 7 victoires de suite, 7 victoires et une défaite depuis le début de la saison. Puis, pour une équipe qui a à peu près pas besoin d'aide, ils ont réussi à aller chercher Dez Bryant, receveur de passes controversé qui a joué avec les Cowboys de Dallas, impliqué dans différents incidents avec des coéquipiers, des coachs, etc. Bref, il n'aura pas été avec les Saints bien longtemps, ça a l'air?
Non, c'est ça, malheureusement, parce que moi, j'aurais bien aimé voir ça personnellement. Dez Bryant, bon, ils l'ont mis sous contrat cette semaine, réussi son premier entraînement hier et aujourd'hui, ça a moins bien été. Sur le dernier jeu du deuxième entraînement, s'est blessé et là, ce qu'on sait à l'heure actuelle, c'est que les Saints craignent une déchirure du tendon d'Achille. Donc ça mettrait fin automatiquement à sa saison.
Ah oui.
Puis habituellement, quand les nouvelles sortent comme ça, les Saints craignent que c'est des informateurs assez crédibles qui les rapportent. C'est rare là, que le lendemain, on se rétracte et on change la donne.
Ouais.
Donc, faut présumer que sa saison est finie. Moi, ce que j'aurais aimé de Dez Bryant avec les Saints, oui, sa production a chuté dans les dernières années. Oui, il y a un côté très abrasif qui peut faire des fois des dommages dans un vestiaire. Mais je pense qu'il se serait joint à une organisation solide mené de main de maître par un vétéran entraîneur-chef en Sean Payton, un vétéran corps arrière en Drew Brees.
Ouais.
Je pense que ces petites crisettes de diva, ça aurait pas passé au conseil.
Mm-hmm.
Ça aurait été la première des choses. Puis deuxièmement, tu veux pas que Dez Bryant, à ce stade-là de sa carrière, s'amène dans une équipe où il doit être le sauveur, où il doit être le numéro un, puis reprendre où il a laissé en 2014 sa dernière année productive.
Mm-hmm.
Mais là, il s'amenait dans un contexte où, avec l'excellent Michael Thomas, il était clairement une deuxième, une troisième option à la Nouvelle-Orléans. Donc, dans ce contexte-là, moi, j'aurais aimé voir ce qu'il aurait pu accomplir avec les Saints.
Ouais.
Ça aurait été bien intriguant. Mais dommage, faudra attendre peut-être à la saison prochaine si les Saints veulent encore de lui ou si une autre équipe lui donne une chance.
Parlant des Saints, est-ce que leur match de dimanche contre Cincinnati, c'est pas mal le meilleur du programme de dimanche?
C'est dans les bons matchs, au sens où ce sont deux équipes qui ont des fiches gagnantes, donc il peut arriver toutes sortes de choses dans ce contexte-là. Mais je pense pas que la défensive des Bengals a ce qu'il faut pour résister à l'arsenal diversifié des Saints. Parce que, écoute, je te parlais de jeu aérien, je te parlais de Breeze, de Thomas, mais faut pas oublier qu'ils ont deux excellents porteurs de ballon. Alvin Kamara peut tout faire sur le terrain. Si c'était pas de Todd Gurley actuellement avec les Rams de Los Angeles qui connaît une saison extraordinaire, il faudrait clairement parler de Kamara comme du meilleur porteur de ballon de la NFL. Mm-hmm. Tu sais, dans le sens où Kamara, il peut tout faire, il peut capter des passes, il peut bloquer, il peut courir avec le ballon. C'est une force de la nature, donc. Les Saints, honnêtement, ça va être bien ben difficile à freiner là, du côté des Bengals.
OK. Les deux équipes qui ont 8 victoires, une défaite, Kansas City et les Rams, devraient pas avoir de misère à enchaîner une 9e victoire. Dimanche soir, Dallas contre Philadelphie. Les deux équipes, Dallas 3 victoires, 5 défaites. Philadelphie 4-4. Jusqu'à quel point c'est une déception, Philadelphie, à 4 victoires, 4 défaites?
Ben, c'est une déception parce que l'année passée, ils ont été tellement dominants. Mais il faut se rappeler toujours d'une chose. Quand tu commences l'année sans ton corps arrière partant, Carson Wentz...
Non, mais il n'était pas là au Super Bowl non plus.
Non, c'est ça.
Puis ils ont gagné.
Comprends. Ben oui, je comprends. Il a joué le match de sa vie, mais ça reste ça dans ma tête. C'est le match de sa vie. Je pense pas que Nick Foles, l'année prochaine, il va certainement signer avec une autre équipe parce qu'il va devenir agent libre. Je pense pas qu'on va le voir se réétablir comme un partant dominant ailleurs. Mmh. Je pense qu'il a profité d'une balade en tapis volant. Là. Ça a été magique, ça a été extraordinaire. On va pas lui enlever. Il a gagné le Super Bowl. Il a joué de manière impeccable contre un gros club comme les Patriots, mmh. connu de bonnes séries aussi avant ce match-là. Donc, je lui enlève rien, mais ça reste selon moi, un corps arrière marginal. Donc, les Eagles ont commencé l'année avec lui. Il y a eu des blessures aussi à gauche, à droite. Faut pas l'oublier. Le receveur Alshon Jeffery qui n'a pas débuté l'année. Depuis qu'il est revenu, Carson Wentz, très productif. Mm-hmm. Dans les 5 derniers matchs, Wentz, qui a lancé 12 passes de toucher, une seule interception, je pense qu'on revoit tranquillement le corps arrière qui était en voie de devenir le MVP l'année passée, là, si il avait pu terminer la saison en santé. Mm-hmm. Donc ça, c'est très encourageant pour les Eagles.
OK, on va surveiller ça. Stéphane, merci beaucoup.
Ben, merci à toi, puis à bientôt.
À bientôt. Stéphane Cadoret du Journal de Québec, qui est notre collaborateur football. Tantôt, je disais avec Stéphane que les Rams devraient pas avoir de difficultés à remporter leur 9e victoire de la saison en 10 matchs. Par contre, ils auront eu une semaine d'entraînement pas mal perturbée. Leur complexe d'entraînement à Thousand Oaks, dans la région de Los Angeles, c'était à moins de 10 km de la fusillade qui est survenue dans un bar. Je me semble que c'était mercredi soir. Alors, ça a perturbé un petit peu la journée d'hier à l'entraînement. Et aujourd'hui, également, l'entraînement a été perturbé par le fait qu'il y a une 20aine de joueurs et d'entraîneurs qui ont dû évacuer leur résidence en raison des feux de forêt qui sont hors de contrôle dans la région de Los Angeles. Alors, j'ai hâte de voir si ça peut avoir des répercussions sur la performance des Rams dimanche contre les Seahawks de Seattle. Avant d'aller à la pause, j'ai un forfait de 4 billets à faire tirer pour le match des Remparts contre les Wildcats de Moncton le 20 novembre prochain au Centre Vidéotron. C'est la soirée FM 93. Premier appel, le plus vite, 670-9330, vite, vite, 670-9330. Will prend le gagnant. On revient après la pause pour les curiosités sportives d'Esteban Arguin-Degui.
Jusqu'à 19h, encore plus de sport avec l'avant-match. FM 93.
L'événement de l'hiver Mercedes-Benz est en cours chez votre concessionnaire Star Dealer 2018 Mercedes-Benz Saint-Nicolas pour un temps limité. Profitez d'un taux à la location à partir de 1,9% et un taux au financement à partir de 0,9% sur les modèles 2019 sélectionnés. De plus, profitez du crédit en argent jusqu'à 2 000 $ et de 3 mensualités à nos frais. Venez vous réchauffer avec ces offres exceptionnelles chez Mercedes-Benz Saint-Nicolas, concessionnaire Star Dealer 2018 et centre AMG certifié. Je vous parle de Mathieu Dumont. À part son nom, tout ce que je vais vous raconter est vrai. Avec les années, Mathieu avait cumulé une dette de plusieurs milliers de dollars sur ses cartes de crédit. Coincé à la gorge, il pouvait même plus payer le hockey de son plus jeune. Il a consulté Jean Lelièvre Syndic, autorisé en insolvabilité. Ses paiements sont passés de 2 000 $ par mois à 500 $ par mois. Il a recommencé à dormir et envoyé son plus jeune au hockey. Des personnes comme Mathieu, Jean Lelièvre en a été des centaines. À tous les mois, visitez jeanlelièvresyndic.com.
Un ami m'appelle pour dîner? On va à l'atelier. J'ai quelque chose à fêter? Je vais à l'atelier. C'est pas compliqué. Je suis toujours rendu à l'atelier. Pour le 5 à 7, il y a des spéciaux sur tous les types de drinks à 6, 5 et même 4 $. Et vous devez essayer un de leurs cocktails préparés par leur mixologue. Vous êtes indécis? Ils vont en préparer un à votre image. Ils en ont même créé un pour moi, le conservateur. Vous comprenez pourquoi je suis toujours rendu à l'atelier. Le Bistrot L'Atelier sur Grande Allée.
Hey Martin, j'ai la meilleure idée de cadeau de Noël pour Léa et Zach.
C'est quoi?
La passe Pau. C'est la nouveauté du Massif du Sud qui t'offre 50% de rabais pour tout le mois de janvier.
50% en janvier?
Avec une journée gratuite et plein d'autres rabais pour économiser jusqu'à 525$. C'est presque irréel.
J'en reviens, Pau. Léa et Zach vont triper de skier au Massif du Sud.
Va sur massifdusud.net avant le 15 novembre pour avoir ta passe Pau en prévente pour seulement 69,99$.
Le Massif du Sud, c'est la montagne de l'Ouest dans l'Est.
Reconnu mondialement pour ses hommages à Genesis, The Musical Box présente Genesis, une soirée d'extravagance au Grand Théâtre. Avec ce tout nouveau spectacle de Musical Box, puis cette fois dans les classiques et les perles rares du Genesis des années 70, dont certaines pièces encore jamais jouées sur scène. Voyez The Musical Box les 4 et 5 janvier au Grand Théâtre de Québec. Billets sur grandtheatre.qc.ca. Une collaboration du FM 93.
Gagnez vos billets pour Iron Maiden Live, la tournée de Legacy of the Beast 2019. Le 7 août, au Centre Vidéotron. Vous aimeriez gagner vos billets? Écoutez la Grand Messe du Rock ce dimanche. Venez vivre l'expérience Iron Maiden Live, une production Gestev et Live Nation.
À découvrir dans vos cahiers du samedi. Dans le cahier Weekend, Liz Dion se prépare pour la première montréalaise de son spectacle, Je suis rendu là. Dans le cahier Livre, entrevue avec Bernard Werber pour la sortie de son livre, La boîte de Pandore. Dans le cahier Casa, une maison moderne à l'atmosphère chaleureuse, tout en contraste. Dans le cahier Saveur, Madame Labriski propose de remplacer le sucre par de la purée de date. Dans le cahier Voyage, 100 bonnes adresses en Floride tirées de notre best-seller. Le Journal de Québec, mon plaisir du samedi.
Salut, c'est Jean de Lévis-Chrysler. C'est déjà le temps des ventes de fin d'année. Oui, oui, Noël s'en vient. On vous offre le RAM à 98 $ par semaine ou encore le Grand Cherokee à 114 $. À l'achat, sur 96 mois avec un taux de 4,99% avec 0 $ comptant et les taxes en sus. Un RAM, quand ça t'en prend un, ça t'en prend un. Un Grand Cherokee, parce qu'un Jeep, c'est un Jeep. Pour les meilleurs, c'est Lévis-Chrysler, pas ailleurs.
Flash pub. Flash pub.
Où est-ce que vous trouvez de belles céramiques, des bois flottants et des vinyles clic prêts à emporter à prix d'entrepôt? Chez Céramique L'Entrepôt 850 Pierre-Bertrand.
Quand les joueurs se concentrent, quand les spectateurs affluent, c'est que le match est sur le point de s'enflammer. Au FM 93, vous écoutez l'avant-match avec le VES.
On est de retour dans l'avant-match et c'est le moment de la semaine où on s'entretient avec Esteban Arguin-Degui sur ses curiosités sportives. Salut Esteban!
Comment ça va, Vez?
Ça va très bien. Qu'est-ce que tu as retenu cette semaine? Tu me parles de Sam Bradford, l'ancien maintenant corps arrière?
Oui, c'est ça. Si c'était, je pense que si c'était à refaire dans ma vie, je serais Sam Bradford. Mm-hmm. Le gars a joué 83 matchs dans la NFL, a eu 103 touchés, 61 interceptions. C'est quand même pas des statistiques impressionnantes.
Non.
Ses équipes ont eu une fiche de 34-48-1, donc 34 victoires seulement. Mais en carrière, il a eu comme salaire 127 500 000 $.
Ah, OK, c'est pas grave s'il a perdu sa job, là.
Non, mais je pense qu'il y aura pas de problème pour aller chercher du lait au dépanneur.
Mais non, ben c'est ça, puis il peut y aller en auto, là, puis payer son gaz facile.
Oui, puis d'après moi, sa voiture va très, très bien.
Oui, mieux que la mienne. Elle n'a pas besoin d'être repeinturée, la sienne. Là.
Non, pas vraiment.
c'est quand même assez impressionnant comme statistique, effectivement, pour un gars qui n'a pas été tellement dominant. Remarque, ça dépend toujours des équipes avec lesquelles il a joué. C'est un
sport
d'équipe.
Le gars avait été un premier choix, tu sais, overall, mais c'est juste que ça m'a frappé, là, tu sais, c'est 125 millions, le gars, il a jamais rien fait de sa vie, là, tu sais.
Ouais, mais il a joué avec quelles équipes, lui, il a joué, il a fini avec l'Arizona.
Il a fini avec l'Arizona, il a joué avec les Rams, de mémoire, j'ai joué avec les Eagles, ouais. Les Vikings.
Ouais.
Il en a fait quelques-unes, je te dirais.
Mais c'était-tu des équipes dominantes au moment où il est passé dans ces équipes-là? Je pense pas.
Ben, entre autres, avec les Vikings, on avait bien des espoirs, mais ouais. Bon, ça n'a pas figuré. Avec les Eagles également, là. Pas nécessairement avec Arizona. Là. Je pense qu'Arizona mettait plus un plaster sur un petit bobo là, le temps que Josh Rosen arrive, mais c'est ça. On lui a donné de l'argent pareil.
OK. Parle-moi un peu de la mascotte de l'équipe d'Air Force.
Ben oui, toi, je savais pas ça, mais Army and Navy, tu connais la classique annuelle là, qui va arriver à la fin de la saison. Semblerait qu'il y a une habitude que les équipes respectives ont l'habitude d'aller voler avant le match, là, le but, là, c'est d'aller voler la mascotte de l'autre côté. Ah. Et ben là, je te parle d'Army Navy. Et là, Army, c'est une mule, la mascotte. Okay. Navy, c'est Bill le book. C'est un gros book. Mais là, il y a un brillant de l'Army. Il y avait un match la semaine passée, Army Air Force. Et il y en a un qui a dit, moi, on va faire ça, mon compte Air Force. Mais Air Force, leur mascotte est un faucon. Et il semblerait que le faucon n'a pas vraiment apprécié.
Un vrai, là, pas un costume.
Non, un vrai faucon de 22 ans, Aurora le faucon.
OK, mais c'est Aurora, pareil, là.
Ça a tellement brassé qu'on a échappé Aurora, et là, on se demande si Aurora pourra revoler, parce que semblerait que ça n'a pas bien été pour le vol de la mascotte dans le match de la semaine passée. Et là, on parle même d'accusation criminelle, là, parce qu'il semblerait, et là, c'est probablement quelqu'un du Army, donc un soldat américain qui a voulu faire ses petites blagues d'avant-match, là.
Ça a pas
je connais
ça.
Les gens qui ont déjà fait ça au Rouge et Or, mais je nommerai pas de nom, là, mais bon. Ça.
OK, on arrête là. Salut, Esteban. Merci beaucoup. Ça n'a vraiment pas été une bonne idée.
Bon week-end.
Salut, Esteban Arguin-Degui avec ses curiosités sportives. C'est tout pour l'avant-match pour aujourd'hui. Merci à Will pour le travail à la recherche, la mise en onde et évidemment les entrevues à la conférence de presse de la Coupe Dunsmore ce midi. Match de la Coupe Dunsmore présenté demain au Stade TELUS Université Laval pour la 6e année de suite entre les Carabins et le Rouge et Or. Go, Rouge et Or, go!
De l'avant-match sont disponibles maintenant sur fm93.com. FM 93, ça me parle.